Une histoire riche de 1400 ans. On peut découper l'histoire des débuts de l'islam en trois périodes. La première correspond à la période du califat des quatre successeurs du prophète. À cette époque, l'islam, né en Arabie, se répandit rapidement en Syrie, en Irak, en Égypte et jusque dans certaines parties de l'Iran, de 632 à 661. Vint ensuite la période de la première dynastie, où le pouvoir resta entre les mains d'une seule et même famille pendant plusieurs générations. Les Omeyyades, de 661 à 750, choisirent Damas comme capitale pour régner sur une communauté islamique implantée sur un territoire allant jusqu'aux confins de l'Inde à l'est et jusqu'en Espagne et au Maroc à l'ouest. Les empires finissent toujours par décliner et la domination omeyyade avait fini par susciter bien des convoitises. À l'issue d'un assaut victorieux, le chef de la famille abbasside prit le pouvoir. La dynastie omeyyade fut remplacée par la dynastie abbasside, de 750 à 1258, qui installa sa capitale à Bagdad. Cette ville devint à la fois le centre du pouvoir politique et un foyer de rayonnement culturel. L'islam a aujourd'hui une histoire riche de 1400 ans. Actuellement, ses fidèles représentent environ un cinquième de la population mondiale. Et dans le passé, sa domination s'est exercée sur des zones géographiques largement plus étendues que n'importe quel autre empire au monde. Vous imaginez bien qu'il est impossible de résumer en un seul chapitre l'histoire et le rayonnement de cette religion. Il est impossible à l'auteur de retracer tous les grands moments de l'histoire de l'islam, au risque de vous ennuyer avec de longues listes fastidieuses de dates et de noms de dirigeants et de lieux aux consonances surprenantes. Voici en particulier les grands moments de l'expansion de l'islam que l'auteur n'abordera pas dans ce chapitre. L'islam s'est implanté du XIIIe au XVIe siècle en Indonésie, actuellement le plus grand pays musulman. Très rapidement, l'islam s'est développé le long des côtes d'Afrique de l'Est, puis a progressé à l'intérieur de cette zone pour toucher également l'Afrique de l'Ouest, finissant par s'imposer comme la religion dominante dans la partie nord de l'Afrique subsaharienne. À l'époque des Omeyyades, le domaine de l'islam gagne le Maghreb et l'Espagne. Son implantation dans cette région présente des caractéristiques particulières liées à l'histoire et à la civilisation des territoires conquis qui sont aujourd'hui la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et l'Espagne. L'islam s'est également imposé comme la religion dominante en Asie centrale et dans les régions montagneuses du Caucase, de la mer Noire jusqu'aux confins de la Chine. Ces territoires faisaient partie jusqu'à ces dernières années de l'Union soviétique. Écoutez le chapitre 21. Et constituent aujourd'hui des États indépendants, nouvellement créés. L'auteur a volontairement omis de parler des transformations qui ont agité le cœur historique de l'islam dans la période qui va de la fin de l'ère abbasside à l'émergence des empires ottomans et safavides dans cette région que l'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. À cette époque, les dynasties se succédèrent sans qu'aucune parvienne à exercer un contrôle durable sur l'ensemble des territoires. Pour en savoir plus sur ces aspects, vous pouvez consulter, entre autres ouvrages intéressants, celui de Clifford Edmund Bosworth, « Les dynasties musulmanes » aux éditions Sinbad, 1996.
Le domaine de l'islam, Dar al-Islam. La mission de l'islam est d'étendre le règne de Dieu sur le monde entier. En termes concrets, cela signifie que le monde entier devrait être islamisé. En islam, le monde est divisé en deux domaines. Le domaine de l'islam et le domaine qui ne connaît pas encore l'islam. Le Dar al-Islam, domaine de l'islam, correspond aux régions qui sont déjà islamisées. Les musulmans considèrent que c'est la volonté de Dieu que son règne s'étende sur le monde entier, afin que tous les hommes vivent selon son plan et sa loi. Le Dar al-Harb, domaine de la guerre, correspond aux régions qui ne sont pas encore islamisées. Dieu demande aux musulmans de faire en sorte que toute l'humanité rejoigne le giron de l'islam, sans pour autant imposer la conversion forcée. On mentionne parfois une troisième catégorie, le Dar al-Sulh, domaine de la trêve, qui correspond aux territoires qui sont en relation par des traités avec le Dar al-Islam, sans être encore sous la loi islamique. Les penseurs de l'islam ont longuement débattu pour savoir comment définir les zones géographiques qui peuvent être validement considérées comme faisant partie du Dar al-Islam et dans quelles circonstances une région peut cesser d'en faire partie. Ils ont également discuté des conditions dans lesquelles un État islamique peut entrer en guerre avec un État voisin non musulman pour l'intégrer au Dar al-Islam. Il y a eu également des débats pour savoir si une personne peut vivre correctement sa foi musulmane quand elle ne vit pas dans un État islamique. Pour certains, ceux qui, du fait de modifications de frontières politiques, se retrouvent dans un État non islamique, devraient émigrer pour s'installer dans un État islamique. Cette position est comparable à celle des Juifs, qui considèrent que les Juifs de la diaspora ont une obligation religieuse à émigrer vers Israël. Aujourd'hui, ces débats sont encore d'actualité au sein de l'islam, en particulier à propos de l'émigration massive de musulmans vers les pays occidentaux. La traduction du mot « dar », comme dans « dar al-islam », est difficile à rendre en français. La racine de ce mot arabe vient de l'idée d'encercler. Avant le prophète Mohammed, le mot « dar » désignait le campement circulaire d'un groupe nomade. Il désigne également l'espace dans lequel vit une famille, au sens large du terme, délimité par des murs, par opposition à la maison proprement dite. C'est pourquoi le mot français de « domaine » ou celui de « propriété » paraissent les plus aptes à rendre ces notions liées à l'habitat. Le mot « dar » est fréquemment traduit en français par « maison » ou « demeure ». La notion de « dar al-islam » renvoie ainsi à l'idée d'un domaine délimité à l'intérieur duquel la communauté musulmane demeure à l'abri du danger sous le régime de la loi divine.